On a commencé avec Pauline à 0,2 ETP un jour par semaine sur le sujet. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était un, extrêmement positif pour notre karma, deux, pas mauvais non plus pour nos affaires, et que par conséquent, on avait intérêt à investir sur cette transition, et que c'était pour nous devenu un avantage stratégique compétitif que d'avoir fait une partie du chemin vers une entreprise plus responsable, plus durable.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans La Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants, de managers de mission, qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers la société à mission, mais également d'experts et d'auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Thomas Meyer, directeur général de SOCAPS, et Pauline Raoult, Sustainability and Purpose Officer chez SOCAPS. Cet épisode s'inscrit dans la série « Un an après », et d'ailleurs à double titre. Déjà parce que mon premier entretien avec Thomas date de l'an dernier, mais également, et ce n'était pas du tout prévu, cet épisode sort la semaine du premier anniversaire de SOCAPS comme entreprise à mission. Alors je vous préviens, cet épisode est hyper dense. La raison, SOCAPS avait déjà une démarche RSE poussée, mais en la doublant de la qualité de société à mission, ils ont passé la vitesse supérieure. Nouvelles activités dans les clean tech, forte croissance, besoin de grossir mais de manière responsable, passage de 10 à 350 candidatures spontanées qualifiées en un an, engagement collaborateur renforcé avec les travaux liés à la mission, etc. etc., etc. Cet épisode est un parfait cas pour quiconque veut se lancer dans la démarche ou cherche à mieux structurer le déploiement de sa mission. Pauline et Thomas reviennent sur ce qu'ils auraient pu faire différemment avant de changer leur statut d'ailleurs, et également expliquent comment ils ont structuré le déploiement en 3 objectifs, 12 indicateurs, 130 actions, dont 80% émanent d'initiatives de collaborateurs. Je vous ai dit que ça allait être riche. Et si cet épisode ne vous donne déjà pas envie, je peux juste vous dire que le choix musical de Pauline m'a bluffé, un très joli coup de cœur. Sans plus tarder, place à l'écoute. Bonjour Pauline, bonjour Thomas.
Bonjour Vivien.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir dans un de vos sites pour cet entretien un an après, puisque Thomas, on a échangé l'an dernier, il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était peu de temps après que SOCAPS soit passé société à mission. Et l'idée aujourd'hui, c'est de prendre un peu le pouls de où en est SOCAPS un an plus tard, les efforts fournis, les projets menés, les obstacles rencontrés éventuellement, bref, de voir un peu comment la mission vit au sein de SOCAPS. Pour commencer, Thomas, est-ce que tu pourrais nous rappeler l'activité de SOCAPS et surtout son organisation ?
Oui, bien sûr. Alors, on a une activité qui est assez simple. On est un opérateur d'assistance technique industrielle. Donc on aide des clients qui sont des gens qui fabriquent des machines ou qui exploitent des usines à concevoir, à assembler, à installer, à maintenir, à connecter, à optimiser leurs outils de production à travers le monde. On est présent dans 67 pays, on a une quinzaine de bureaux commerciaux qui organisent l'activité depuis ces 67 pays et vers environ 120 pays chaque année, et on est présent à 60% dans l'agroalimentaire, 20% dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, un peu plus de 16% dans les industries de l'assemblage automatique et de la logistique automatisée, et puis plus récemment, depuis que nous sommes devenus société à mission, dans les clean tech. Et puis enfin, on a un modèle, pour répondre à ta question, qui est particulier, puisqu'on est une société coopérative artisanale, ce qui veut dire que notre capital est détenu par les techniciens sociétaires de SOCAPS. Et donc SOCAPS, en chiffres, c'est environ 1050 travailleurs, dont 390 sociétaires votants à travers le monde. Donc une quinzaine de bureaux, je vous l'ai dit, une cinquantaine de personnes dans nos back-office et nos bureaux qui organise les ventes, l'administratif, toutes les fonctions support de l'entreprise, et puis un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière.
Heureusement que j'ai posé la question, parce que j'aurais jamais été aussi clair. Donc toi, tu en es le directeur général.
Absolument.
Et c'est vrai que pour bien comprendre tout le métier, je renvoie les auditeurs à l'entretien qu'on a fait l'an dernier, parce qu'on était vraiment rentré dans le détail à ce niveau-là. Et toi, Pauline, donc tu es en charge justement de gérer un petit peu tous les efforts de sustainability, c'est ça ?
C'est ça. Moi, je suis Sustainability and Purpose Officer chez SOCAPS. Donc, je suis en charge de tout ce qui touche de près ou de loin au sujet de développement durable et je suis manager de la mission. Donc, je suis les actions opérationnelles, l'évolution des objectifs et je participe à l'organisation des réunions du comité de mission. Et puis, je fais des rapports de suivi régulièrement auprès du COMEX et du comité de mission.
On va revenir sur tout ça. Alors justement, je disais, on s'est vu la première fois, c'était donc il y a un an maintenant. Comment s'est organisée la déclinaison du passage de on a notre mission dans les statuts à maintenant il faut qu'on fasse vivre la mission à l'intérieur de l'entreprise?
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La déclinaison de la mission, c'est d'abord le passage des objectifs statutaires au plan d'action opérationnel, et puis ensuite le passage du plan d'action aux indicateurs de mesure, aux KPI. Donc sur le côté plan d'action opérationnel, donc nous on a une mission qui est déclinée sur trois grands axes hyper traditionnels, People, Profit, Planète, qui regroupe un peu de RSE, pas mal d'utilité, donc un mélange de RSE et de mission, et c'est pas grave, et ça nous va très bien comme ça. Et à l'intérieur de ces éléments-là, on va retrouver à la fois des choses qui existaient déjà, et donc on a réinjecté dans nos éléments de mission des plans d'action et des process qui existaient chez nous, en particulier sur la partie people par exemple, sur la partie health and safety, et puis on a imaginé de nouvelles actions, de nouvelles activités, et on a innové là-dessus, et c'est un des gros éléments, je trouve, positifs de la société à mission, c'est que c'est une source d'innovation forte sur les éléments de business, et donc on a décliné en 130 actions opérationnelles qui sont toutes mises dans un gros outil qui s'appelle Tembo Tool et qui on travaille là-dessus. Et en face de chacune de ces actions, il y a un objectif qui ne donne pas nécessairement un KPI, parce qu'on ne va pas suivre 130 indicateurs, on suit une douzaine d'indicateurs,
c'est ça,
qui nous permettent de nous mesurer.
Et comment vous avez fait pour arriver à ces 130 actions parce que, donc, il y a peut-être un peu d'existant, mais il y avait aussi d'autres choses à créer, j'imagine.
Ouais, 80% on a créé.
80% on a créé les groupes de travail aussi qu'on fait en interne, qu'on appelle des bubbles. Il y en a environ 8 par an qui vont réfléchir sur... Il y a une bubble qui s'appelle AirPom qui est sur les achats responsables, la mobilité douce, etc. Réfléchir à des nouvelles solutions entreprises. Il y a plein de groupes de travail comme ça qui, du coup, vont par nature décliner des actions opérationnelles dans leur champ de réflexion.
Ok.
Bon, l'idée, c'est qu'on est un peu en mode agile là-dessus, c'est-à-dire qu'on va prendre sur une problématique où on sent qu'on a quelque chose à craquer, des gens de différents services, les réunir pendant le temps qu'il y a besoin, entre 6 et 18 mois en général, sous l'impulsion d'un pilote qui, en général, n'est pas quelqu'un du management, donc qui prend une casquette de chef de projet sur le sujet, avec un sponsor interne qui va bien pour qu'il y ait les budgets, le temps, etc. nécessaires. Et le job de ces groupes de travail pluridisciplinaires, les bubbles, comme disait Pauline, c'est de faire en sorte de faire émerger une problématique, de la structurer, de la craquer, et de produire soit le plan d'action, soit les résultats qui nous permettent de passer à l'étape d'après, et puis ensuite ce groupe disparaît. Et donc c'est comme ça qu'on est passé... Enfin, qu'on a construit 80% des 130 lignes d'action, c'est avec le fait que les gens collaborent. Ce qui a comme gros avantage, c'est qu'on enclenche la conduite du changement. En le faisant comme ça, on fait en sorte que les gens s'approprient beaucoup plus les sujets que si c'était un truc top-down, un peu hors sol, quoi.
Oui, justement, c'était ma question, parce que en soi, tu le disais, les objectifs statutaires, ça reste quand même assez philosophique, assez conceptuel, et volontairement, hein, ça sert à rien d'être trop précis. Mais ensuite, il faut que ça descende dans l'entreprise, que chacun se l'approprie, que ça soit compréhensible pour le commun des mortels et surtout dans la réalité de chacun. Et donc ça s'est fait via ces différents groupes de travail. Est-ce qu'il y a des pilotes après pour qui durent dans le temps au-delà de ces groupes de travail? Au-delà de toi, évidemment, Pauline.
Alors oui, en gros, l'architecture générale, c'est notre raison d'être statutaire, les trois objectifs statutaires de mission. À l'intérieur de chaque objectif de mission, on va avoir trois piliers. Donc, si je prends le 1, notre objectif numéro 1, people, garantir un environnement de travail sûr, équitable, inclusif. On a ensuite trois piliers. 1.1 qui est santé et sécurité au travail. 1.2 qui est parité et opportunités égales. Et 1.3 qui est inclusion et
diversité
dans l'entreprise. Et à l'intérieur de chacun de ces piliers, on va avoir un pilote qui, lui, est permanent dans l'entreprise. Donc on a notre patron de la sécurité qui gère le 1.1, on a notre CPO qui va gérer le 1.2, etc. Et donc quand on va rentrer dans ces rubriques-là, là on va avoir des plans d'action et les différentes lignes d'action qui vont constituer le plan d'action de 130 lignes.
D'accord. Et si on regarde un petit peu le pilotage du comité de mission, parce que en soi, vous n'étiez pas obligé d'avoir un comité de mission, donc vous avez décidé d'en avoir un. Comment vous l'avez créé? Alors on en avait un petit peu parlé l'an dernier, parce que je crois qu'il était déjà constitué à ce moment-là. Je ne sais plus si la première réunion avait déjà eu lieu ou pas. Mais comment, j'imagine là c'est beaucoup ton rôle aussi, Pauline, comment tu l'animes?
Alors, moi, je prépare les réunions avec Jean-Philippe Doll, qui est le président de comité de mission. On se fait un point ou deux avant chaque réunion, où moi, je lui fais le point d'avancement, je lui cite les points qu'il faut absolument aborder, lui rajoute ses idées, ses envies de sujets abordés. On structure ensemble la réunion. Et puis ensuite, quand arrive la réunion, donc on en fait trois par an aujourd'hui, c'est généralement un échange de paroles entre moi, du coup, côté vraiment animation structure, quand je fais les points d'avancement avec l'outil Tempo Tool, par exemple, donc qui permet d'avoir un gros dashboard qui synthétise nos avancées. Moi, je vais plutôt m'axer sur ces points-là. Et puis Jean-Philippe, par exemple, sur le dernier comité de mission, il y avait une réflexion sur le rapport, le point de vue du comité. Donc lui, là, va prendre le lead de l'animation pour discuter avec les différents membres du comité. Et puis en sort les idées que moi, après, je retranscris et que je suis pour les prochaines réunions avec le comité.
Peut-être ce qu'il faut préciser sur le comité de mission, trois éléments. Pourquoi on l'a fait? C'est une question que tu n'as pas posée, à laquelle je m'empresse de répondre. Pourquoi on l'a fait en comité de mission plutôt que d'avoir un référent de mission? Parce que c'est beaucoup plus riche, parce que ça permet d'avoir une gouvernance plus ouverte. Et dans notre comité de mission, on a quatre collèges de deux personnes à chaque fois. Donc on a fait en sorte que notre comité de mission, un, soit paritaire, ce qui n'est pas facile dans nos organes de direction aujourd'hui, conseil d'administration, comité exécutif. Deux, intègre au moins 50% de parties prenantes, et pas seulement des parties constituantes, donc des parties prenantes externes. Et trois, soit équilibré sur quatre collèges, deux salariés, deux sociétaires, deux partenaires extérieurs fournisseurs et deux associations qui sont des associations qu'on soutient à travers notre fonds de dotation. Et donc du coup, on a des points de vue qui sont beaucoup plus divers et beaucoup plus riches que si on avait fait quelque chose de purement interne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on s'assure qu'on est à peu près compréhensible par l'externe en ayant des gens qui suivent ce qu'on fait en toute bienveillance et en étant intéressés à notre activité. Il faut quand même qu'ils soient au courant de ce qui se passe chez nous, sinon ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais néanmoins, ça évite d'avoir quelque chose qui soit trop éthéré et trop abscon. Et le troisième élément, c'est qu'évidemment, le président de notre comité de mission, Jean-Philippe Doll, Pauline le disait, n'est pas quelqu'un de l'entreprise, c'est un fournisseur, et c'est le président du groupe Candor qui assure le nettoyage de nos locaux. Et donc on a choisi Jean-Philippe d'abord parce que c'est un super entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des valeurs et une vision du capitalisme et de l'entreprise qui nous correspond bien. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui est le manager ultime des gens qui gèrent l'entretien de nos locaux. Et on s'est dit qu'on verrait sans doute à quel point on est sincère et profond dans notre capacité de bienveillance à la lumière de la façon dont on traite les équipes d'entretien de nos locaux. Et donc, pour toutes ces bonnes raisons, c'est Jean-Philippe qui a eu la gentillesse de consacrer beaucoup de temps. Parce qu'au final, c'est à chaque fois des réunions assez denses et ça prend du temps. Parce qu'entre deux réunions, on a un déjeuner de suivi. Donc on se voit 8 fois par an, quoi.
C'est ça.
Le déjeuner de suivi, c'est juste avec le président ou c'est tout le comité de mission?
Tout le comité.
Ah oui.
Ça nous permet, en fait, si on se tient qu'aux 3-4 réunions par an, en fait, ça fait des réunions extrêmement condensées, un peu longues, et entre deux, où même si on peut se partager les documents, c'est quand même, ils ont tous un métier à part. Et le déjeuner, ça nous est venu, je crois, après la seconde réunion, on s'est dit, en fait, ça sera un moment un peu plus court, un peu plus informel, qui permet d'échanger, de se remettre un peu aussi. Eux, Thomas et moi, on a la tête dedans tout le temps. Eux, beaucoup moins, de remettre un peu aussi les sujets au goût du jour, d'aborder des questions qu'on se pose pour le prochain comité, etc. Mais sur des temps un déjeuner de 2 heures dans la semaine.
Et là, ce qu'on s'est dit en termes d'évolution, c'est qu'on aimerait que chaque membre du comité de mission parraine un des sous-objectifs dont je parlais tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une main plus opérationnelle et plus les mains dans le moteur, quoi, dans le comité de mission, pour éviter que ce soit une espèce de revue à la Prévert de toutes les lignes d'action à chaque fois, sinon c'est hyper compliqué à suivre, alors il faut que ça dure 8 heures. Or, on a des réunions qui durent quand même déjà 3 heures, c'est beaucoup. Donc l'idée, c'est que chacun puisse prendre un des thèmes qui lui plaît, sur lequel il le sent, et qu'à l'occasion de ses déjeuners, il nous fasse un compte-rendu de focus sur telle ou telle partie de la mission.
Bon courage, parce que c'est vraiment pas évident à mettre en place, mais...
Non, c'est sûr que c'est pas évident.
Mais je comprends l'idée. Si on regarde un petit peu au niveau de l'appropriation en interne, donc on en a un petit peu parlé sur les différents groupes de travail, etc. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, le niveau d'appropriation de la mission est... fort, très fort, insuffisant, pas assez hétérogène?
Moi, je pense que c'est assez variable. C'est-à-dire que le sentiment que j'ai, mais d'ailleurs, ce sera intéressant quand on fera notre revue Positive Workplace, ça peut faire partie des points à revoir avec eux. J'ai l'impression que les gens qui étaient assez convaincus au début le sont encore plus. Donc ça a renforcé dans leur conviction les 15-20% de militants qui étaient déjà dans l'organisation avant. Ceux qui étaient assez contre, de fait, s'y sont intéressés et en fait sont plutôt revenus dans le giron. Je pense notamment au niveau des chefs, que moi je côtoie plus. Là-dessus, j'ai pas trop de difficultés. Par contre, je pense que c'est pas du tout suffisant. On est dans 67 pays, hein, donc
c'est pour ça que je pose la question.
C'est compliqué, on est loin, on se voit pas toujours. Il y a des cultures qui sont différentes. Il y a un lien à l'entreprise qui est très différent. Entre l'Inde, les États-Unis, la France et l'Italie, on vit pas la même façon sa vie professionnelle. Et donc, on est encore à la moitié du chemin là-dessus. Sur la capacité qu'on a de le communiquer, de l'expliquer, c'est assez clair. Sur la capacité qu'on a de faire en sorte que les gens se l'approprient et que ça change leur quotidien, c'est franchement le plus compliqué, je pense, de ce qu'on ait rencontré, quoi.
Et ce sera sûrement un des gros points, je pense, de réflexion dans les mois à venir sur comment on réussit à fédérer beaucoup plus. Parce que là où c'est maintenant c'est structuré, formalisé, c'est déployé, ça va forcément être de l'amélioration continue, mais comment on réussit à ce que tout le monde, en travaillant chez SOCAPS, ait cette notion de mission en tête et d'objectif. Sans forcément y adhérer, mais en tout cas, ait cette connaissance et puisse prendre part à une action, quelque chose.
Et ça, quel que soit la nationalité, le statut, salarié, sociétaire, les fonctions... Depuis mécanicien monteur jusqu'à directrice financière, il faut que vraiment on ait la plus large écoute possible du sujet. Au-delà du fait d'avoir structuré, on a modifié toutes nos fiches de mission, et on n'a plus de fiches de poste, c'est des fiches de mission, pour faire en sorte que dans les objectifs individuel de chacun, il y ait les éléments de la mission qui soient repris. On a modifié le système de rémunération collectif pour faire en sorte que les bonus soient déclenchés non plus uniquement sur des indicateurs financiers, mais également sur le taux d'atteinte du plan d'action de la mission. On a, y compris au niveau COMEX, donc tout le monde est bien au sujet, au fait des objectifs qu'on se fixe et de l'importance de les atteindre. Maintenant, il faut qu'on arrive à rentrer dans le quotidien. On est rentré dans les têtes, on est rentré dans les portefeuilles, il faut qu'on arrive à toucher les cœurs. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile.
Justement, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises? Ou à l'inverse, des difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, difficultés, là, j'entends, c'est faire infuser la mission un peu partout. Alors, peut-être sur les bonnes surprises, qu'il y a eu des bonnes surprises auxquelles vous attendiez pas forcément?
Sur les groupes de travail, les bubbles qu'on a mis en place il y a un an, qui étaient au final sur le volontariat des salariés, moi j'ai été agréablement surprise en fait que 95% des collaborateurs SOCAPS prennent part, aient envie de prendre part à une bubble et puis ils s'investissent et réfléchissent et que ce soit des actions symboliques, que ce soit des actions très importantes. Et moi, je suis très contente de voir qu'en fait, dans toutes les strates de SOCAPS, il y a de la réflexion et de l'envie d'avancer ensemble. Et j'étais pas forcément convaincue de ça il y a un peu plus d'un an et demi à peu près quand on a commencé. Et en fait, oui.
Et moi, je pense que... Et l'autre... Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Pauline. L'autre élément qui est plutôt une bonne surprise, c'est qu'on a, en même temps qu'on a mis en place le déploiement de la mission, on a mis en place le mécénat de compétences. Et donc, on a permis à tous les salariés de SOCAPS d'avoir 2 jours de leur temps de travail offerts à des associations, avec une plateforme digitale qui nous gère ça, qui s'appelle Citizen, ce qui est super bien, qui est une plateforme qui aujourd'hui fonctionne très bien en Normandie, se déploie en Ile-de-France, etc. Donc, on l'a fait avec des phases pilotes. Mais si je prends le site de Rouen, qui est notre siège social, on a à peu près les 2/3 des personnes du siège qui sont inscrites sur la plateforme, à l'intérieur desquels 80% ont trouvé dans les 6 mois une mission auprès d'une association. Ce faisant, ça nous a permis de détecter quelles étaient les appétences spontanées sociétales, environnementales des collaborateurs. Je prends un exemple, quelqu'un de la comptabilité, qui s'appelle Louisa, s'est inscrite sur la plateforme et on a vu qu'elle enchaînait des missions auprès d'associations sur les sujets d'inclusion et de diversité. Et on s'est dit, tiens, mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui lui parle et qui la touche. Et donc, ça a permis d'aller la voir en disant, mais t'as envie d'aller plus loin dessus ? Bah ouais, carrément. Bah, pourquoi tu n'avais jamais dit ? Bah, vous m'aviez jamais demandé. Ok, et bah du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Et donc, elle a pris cette casquette-là en plus de son job. Et je pense que ça remet une pièce de motivation dans son quotidien. Ça aide vachement l'entreprise parce qu'on a quelqu'un qui est à 100% engagé sur le sujet. Et puis, ça fait de la mission quelque chose de tangible pour les équipes. C'est-à-dire que ça change le quotidien. T'as le droit officiellement sur ton temps de travail de faire autre chose que travailler. Ou plus exactement, ton travail inclut le fait de prendre soin de ton environnement, au sens humain et planète. Et donc du coup, je pense que ça change le regard de certains par rapport à l'entreprise. Ça remet... c'est la tarte à la crème, il faut du sens, etc. Mais moi, je crois que c'est assez vrai quand même. Hein. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'en ai besoin. Et en l'occurrence, ça nous a permis, le fait de mettre en place le système de mécénat de compétences, de détecter au sein des équipes qui étaient les militants et quels étaient les sujets par personne qui les touchaient spontanément. Parce que nous, il y a, je crois, 150 associations partenaires sur Citizen. Enfin, vraiment, on n'a pas du tout aiguillé sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est une très bonne surprise, et moi, c'est vraiment une reco que j'aurais, et c'est d'ailleurs souvent ce que je dis, c'est quand vous déployez, que ce soit une démarche RSE ambitieuse, stratégique, ou des éléments de mission et d'utilité sociétale, environnementale, le tips de mettre en place en parallèle une démarche de mécénat de compétences, ça permet déjà de montrer tout de suite quelque chose de concret. Globalement, c'est assez gratuit, quoi. Hein. Nous, c'est 2 jours, c'est 1% de la masse salariale du temps de travail. Mmh. Ça veut dire qu'il faut que les gens trouvent 1% de productivité dans leur quotidien. Sincèrement, ça se trouve. On fait des bonnes actions, on gagne des points de karma faciles. Et ça permet de détecter les futurs leaders et les futurs porteurs de projets, de casquettes, sur les éléments du plan d'action à venir.
Oui, ce que j'allais dire, c'est gagnant-gagnant sur tous les plans. Là.
C'est génial. Ouais. Franchement, pour le coup, le système est sur étagère dans le droit français. Il y a juste à prendre le régime français fiscal du mécénat. Et par ailleurs, il y a aussi du crédit d'impôt sur le temps passé au service d'association. Donc
c'est gagnant-gagnant-gagnant. Il y a trop de gagnants, là.
C'est 50-50-50. Tout le monde a gagné.
Et là-dessus, moi, j'aimerais rajouter quelque chose. On a un fonds de dotation chez SOCAPS. Il y a un conseil d'administration dont je fais partie, Thomas aussi, avec 3 autres salariés. Et tous les collaborateurs, les sociétaires peuvent proposer des projets pour qu'ils soient revus et votés. Et depuis l'année dernière, depuis que le mécénat est mis en place, ça a nourri aussi les idées, ça a permis aux collaborateurs de s'approprier un peu plus le fonds de dotation et d'oser proposer de soutenir l'association qu'ils connaissent, de mettre en place une collecte. Là, en ce moment, on fait une collecte de vêtements solidaires parce que notre personne de la comptabilité a fait son mécénat avec cette association. Enfin, ça crée des cercles vertueux. Et ça, c'est super aussi. On a eu plusieurs projets sociétaires dans le fonds de dotation, ce qui était pas le cas avant parce que sûrement pas assez visible et pas forcément très parlant. Et ça permet aussi de boucler la boucle.
Effectivement, c'est un cercle assez vertueux. Alors, tu le mentionnais en passant sur la revue Positive Workplace. Vous êtes labellisé Positive Workplace, qui est donc un label RSE qui se définit comme Made in France. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Comment vous structurez ça par rapport à la mission ?
Alors effectivement, on a fait en même temps la démarche de la labellisation et du passage de société à mission. D'ailleurs, on a fait la labellisation, je crois, juste avant le passage de la société à mission. Alors, c'est pas exactement le même sujet, puisque le sujet de la labellisation adresse plutôt le sujet de notre stratégie RSE. On l'a fait avec Positive Workplace pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était, du screening qu'on avait fait du marché, le seul label qui permettait d'avoir une interrogation directe de nos parties prenantes, en particulier nos collaborateurs et sociétaires. Donc il y a parfois une différence entre ce que l'entreprise pense qu'elle est, ce que l'entreprise éventuellement dit ce qu'elle est, et puis ce que les autres en perçoivent. Et donc c'est important d'avoir cet effet miroir, et ça c'est un gros atout de Positive Workplace, c'est que ça le permet. La deuxième raison, c'est comme son nom ne l'indique pas, effectivement, c'est le label Made in France, et donc c'était plutôt sympa de pouvoir soutenir une start-up à impact française. Et puis la troisième raison, c'est que ça s'est fait finalement assez vite et dans un temps assez ramassé. Quand on regarde certains gros labels américains qui aujourd'hui sortent au bout de 12-18 mois, c'était compliqué pour nous d'attendre autant de temps. Le gros atout par rapport à l'articulation entre les deux, c'est que ça nous a permis, je pense, deux choses. Un, de revalider que la façon dont on avait structuré notre démarche RSE était emboîtable dans notre démarche de mission demain. Moi, je crois qu'il y a une continuité logique entre la RSE et la mission. Alors, il y a tout un débat théologique sur les différences entre comportement et utilité, etc. Oui, c'est pas la même chose. Cela dit, je pense que c'est pas complètement idiot de commencer par son comportement avant d'aller chercher son utilité. Hein, de regarder la paille qu'on a dans la poutre qu'on a dans son œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, et de se dire que si on fait pas d'abord bien chez soi, il y a un petit doute sur le fait qu'on soit crédible à revendiquer l'idée de faire bien pour les autres aussi. Et donc, le fait d'avoir revalidé que cette stratégie RSE, elle était cohérente, elle était cadrée, elle était organisée, elle était perçue par nos parties prenantes, c'était un très bon socle d'appui pour ensuite construire derrière la bascule vers la société à mission. Donc, un, la cohérence, et deux, ça permet aussi d'aller décrocher une petite timbale interne, en l'occurrence les 3 étoiles du label Positive Workplace.
Vous êtes les seuls en plus, hein, je crois. Hein.
C'est la super méga classe.
On n'est plus les seuls.
On n'est plus les seuls.
On est les premiers.
C'est scandaleux.
On est les premiers.
On restera toujours les premiers. Non, mais au-delà de ça, en interne, c'est super en termes de dynamique, de visibilité, de fierté des équipes. C'est super bien. Et puis par ailleurs, les équipes de Positive Workplace font un super boulot de com pour animer tout ça. Donc c'est très sympa. Donc ça nous ouvre des nouveaux champs de développement qu'on n'avait pas en tête il y a 2 ans.
Dans la suite de l'épisode, Thomas et Pauline détaillent les différents avantages qu'ils voient tout juste un an après être passés société à mission, et ils reviennent sur ce qu'ils auraient pu faire différemment avant de le devenir. Alors si on passe un petit peu sur les premiers retours, alors on a déjà un petit peu parlé, mais là sur les conséquences d'être passé société à mission, est-ce que vous en voyez au-delà de ce qu'on a parlé plutôt de l'interne ?
Alors, nous, on fait du B2B dans l'industrie. Donc, il y a en mineur un petit effet dangereux qu'il faut avoir en tête quand on se lance soit dans des démarches de RSE stratégiques, soit dans une démarche de mission, qui est que certains clients particulièrement pernicieux ou malveillants ont tendance à dire « Mais si tu as des sous pour ça, c'est que tu as de la marge. Si tu as de la marge, tu peux baisser tes prix. » Et donc ça, il faut l'avoir en tête, parce qu'il faut être capable assez vite de dire au client, mais un, c'est pas du tout le sujet, deux, ça consomme pas des ressources infinies, hein, ces affaires-là. Bien sûr qu'il faut du temps homme et qu'il faut un petit peu de budget, mais c'est pas des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros dont on parle. Et deux, il nous apparaît qu'il est plus important d'investir sur nos valeurs, notre éthique et notre vision future d'un business dans un monde plus équilibré, plutôt que de s'enfermer sur un modèle de lean manufacturing jusqu'à ce que mort s'en suive et de réduction de nos coûts jusqu'à la fin des temps, qui s'appuie en général sur une augmentation générale de la production, qui dans un monde fini pose un certain nombre de questions qu'on n'est pas prêt de résoudre. Et donc, dans le milieu B2B industriel, une petite partie des acheteurs peuvent avoir tendance à opposer ça, moi j'ai eu 2-3 cas comme ça, en grande majorité, l'image que ça véhicule chez les clients est intéressante, y compris parce qu'on est petit, et je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, moi je crois à l'effet domino, et donc la capacité des petits d'entraîner les gros dans ces affaires-là, plutôt que l'inverse. Alors l'inverse est vrai aussi, bien sûr, hein, quand il y a un très grand client qui dit « il faut tous s'y mettre », ça interpelle, mais le fait que nous, entreprises de taille intermédiaire ou PME de croissance, comme on dit, avec nos petits 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, on arrive à expliquer à des grands clients internationaux que bah, bien sûr qu'on a 2 postes dédiés à la sustainability chez nous, et pas vous. C'est étonnant que vous ne le fassiez pas quand même. Et bien sûr qu'on a une stratégie de RSE stratégique et ambitieuse, et puis évidemment on est passé société à mission parce qu'on croit dans un capitalisme plus responsable, un nouveau pacte social qui le sous-tend, etc. Et qu'il nous semble que stratégiquement ce ne serait pas complètement idiot que l'ensemble des entreprises se préoccupent de ces sujets, ça nous positionne à des niveaux d'interlocution qui passent de direction des achats à direction générale. Et ça, en termes de business pour nous, c'est extrêmement positif et vertueux. Et le deuxième aspect le deuxième effet qui se coule de l'affaire, c'est que ça nous a permis de nous réinterroger sur notre activité, d'abandonner une petite partie de notre business pour nous concentrer et concentrer nos efforts de recrutement, de formation, de marketing, de salon sur les clean tech, sur la gestion durable de l'eau, sur la production d'énergie bas carbone, sur la gestion des déchets, le tri, le recyclage, qui en réalité est un marché, on l'a découvert, qui est en croissance de 25% par an dans le monde, qui nous a ouvert de nouvelles opportunités de business et qui est la filière qui est en plus forte croissance chez nous. Sur l'année 2021, sur le 2021-2022.
Ouais, parce qu'on en avait un tout petit peu parlé l'an dernier, et tu disais que c'était un des axes de développement, mais donc là c'est...
Ça marche, ça rentre des clients, on a rentré 12 clients en un an sur cette activité-là. C'est pas nul, maintenant c'est 1,5% de notre chiffre d'affaires, donc c'est vraiment une trajectoire qui est très bonne et très dynamique, donc on fait quasiment 1 million d'euros hein, sur cette activité cette année. Donc c'est pas neutre en business pour nous, et on pense que c'est un relais de croissance plus efficace en karma et plus efficace en business que de ne pas l'avoir fait. Et du coup, ça c'est la force d'innovation de la démarche de société à mission qui nous a poussé à nous interroger sur « Ok, c'est très bien, on veut protéger l'environnement, la biodiversité, notre empreinte carbone, mais peut-être qu'on peut aussi aller chercher des clients qui ont cette activité-là. » Et point 2, dans la foulée, on s'est dit, mais si on développait une offre de conseil en transition écologique industrielle, il y a peut-être des choses à jouer aussi là-dessus pour nous. Mm-hmm. Ah bah ouais, carrément, bah allons-y, formons un nombre limité de chefs de chantier et de consultants internes qui d'habitude sont focalisés sur l'efficience opérationnelle, sur l'OE, sur la réduction du taux de scrap, sur tous les indicateurs traditionnels de l'industrie. Formons-les à la transition écologique industrielle, à l'économie d'énergie, à l'économie d'eau, à l'économie d'air, à la gestion des flux de déchets industriels, etc., pour accompagner aussi nos clients traditionnels sur une démarche d'éco-transition. Et donc, ça nous ouvre des nouveaux champs de développement qu'on n'avait pas en tête il y a 2 ans. Mmh.
C'est quand même plutôt pas mal.
Bah, c'est carrément cool, même.
Ouais. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est des choses qu'on dit. Quand on parle de la mission, et moi le premier, je dis toujours, voyez le passage en société à mission comme un moyen d'innover. Mais là, clairement, c'est le cas.
Et j'ajouterais en plus que moi, ça m'a permis depuis 1 an, en fait, tout ce qui s'est développé, d'avoir beaucoup d'échanges avec des responsables RSE, développement durable, chez nos clients, qui venaient vers moi, en fait, pour... qui eux n'avaient pas forcément commencé leur démarche et qui avaient envie de comprendre comment on faisait les choses, comment on le déployait, le temps que ça prenait, le temps homme, opérationnel, etc. Et ça donne aussi un autre regard du coup sur le rapport client-fournisseur. Moi du coup je parle avec ces gens-là en direct et puis pour certains on s'est parlé plusieurs fois, j'ai un peu suivi leur évolution dans ces sujets-là. Donc c'est hyper intéressant aussi, il y a 2 ans on n'aurait jamais...
Ouais, c'est plus ça. Des échanges de partenaires que
c'est
des
ça.
Échanges
là,
de clients.
Ça devient
exactement.
Une relation partenariale.
Là, c'est des échanges de bonnes pratiques, de bonnes idées à vos groupes de travail. Ça, souvent, ça quelque chose qui interpelle et donc ça donne une autre relation aussi entre nous.
Et ça, c'est l'aspect client. Et après, il y a l'aspect équipe. Candidats et équipes en place. Alors nous, pour nous développer, donc notre ambition de croissance rentable, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que ça équilibre le rapport de force avec nos clients. Enfin, c'est pas la croissance pour la croissance, c'est parce qu'on a besoin d'avoir une assiette et une assise suffisamment large pour être capable à la fois d'amortir la structure dont on a besoin dans un monde plus complexe industriel, et aussi parce que c'est une façon d'équilibrer le rapport de force avec certains grands clients. Pour arriver à ça, il faut qu'on recrute entre 100 et 150 personnes par an. C'est très compliqué de recruter dans l'industrie en ce moment. Alors on le fait avec une proposition particulière en tant que coopérative, donc c'était déjà un atout pour nous de faire participer les gens à la gouvernance, au capital, etc. Mais c'était sans doute pas suffisant, ou en tout cas, il se trouve que de façon concomitante, je ne sais pas où est l'œuf, où est la poule, je ne sais pas s'il y a un lien direct entre amélioration de la marque employeur et société à mission, il se trouve que ça arrive en même temps, j'ai envie de croire qu'il y a un lien, depuis qu'on a engagé cette démarche et qu'on a aussi assez largement communiqué dessus, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de faire et de le mettre dans un placard, il faut aussi être capable de porter ces messages-là, on reçoit entre 300 et 350 candidatures spontanées qualifiées par an sur des postes dont on aurait besoin. C'est-à-dire qu'on a en gros à peu près un gros tiers de notre effort de recrutement qui est comblé par de la candidature spontanée qui nous arrive.
Ce qui n'était pas le cas avant ?
C'était zéro. C'était 10 par an. Ouais. On avait des candidatures, mais qui ne collaient pas avec ce dont on avait besoin. Donc on a largement augmenté l'inbound là-dessus, candidat, je dirais. Et sur le côté cohésion et engagement des équipes, j'ai le sentiment, et là tu pourras peut-être plus répondre, Pauline, qu'il y a un plus. Alors c'était pas mauvais avant, mais en tout cas, en sortie de Covid, ça a remis une pièce dans la machine beaucoup plus forte, et on a remplacer les séminaires et la cohésion à travers la vodka par la mission et la cohésion à travers les valeurs. Et
c'est mieux pour le foie. Hein.
C'est mieux pour le foie. Alors, c'est sans doute moins bien pour l'industrie des spiritueux, mais nous, ça nous a permis, je pense, de redémarrer beaucoup plus rapidement la machine.
Je suis d'accord avec ça. Et dans les équipes, dans les bureaux, ça, pour ceux qui cherchent du sens, et même si c'est un peu tarte à la crème maintenant, la quête de sens, ben, ça existe. Et moi, je le vois sur des collègues en direct qui prennent à bras-le-corps des projets quand on va faire une collecte de déchets un samedi matin à Rouen, qui sont hyper motivés et qui, dans leur travail aussi au quotidien, ont commencé à intégrer, en fait, des éléments d'action de cette mission, sans même s'en rendre compte, je pense, en plus. Et c'est là où je me dis, on a quand même réussi en un an à essaimer deux, trois petites choses. Et moi, je suis persuadée que ça renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise.
Non, je comprends, et à ce niveau-là, effectivement, c'est plutôt bien, et je trouve que ça peut être très fédérateur. Finalement, c'est un projet énergisant d'être société à mission. Il y a quelque chose qui est assez frappant, parce que depuis qu'on s'est vu l'an dernier, je suis quand même beaucoup plus SOCAPS qu'avant, c'est justement cet aspect de communication, que ça soit sur l'activité de SOCAPS, mais également sur SOCAPS en tant que société à mission. Je pense qu'à peu près une fois par semaine, je vois ta photo sur LinkedIn associée à la société à mission. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté de votre part, et toi aussi Pauline, tu es très active là-dessus, de communiquer sur le fait que SOCAPS est une société à mission, de le faire savoir. Donc il y a vraiment cette logique de parler de plus en plus, déjà de vous, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et d'utiliser la société à mission comme socle pour communiquer.
Alors, je ne sais pas si on utilise la société à mission comme socle. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un axe de communication autour de la responsabilité des entreprises et une nouvelle façon de penser le business, qui était déjà dans notre ADN en tant que coopérative. On est dans l'ESS, clairement, et on était déjà impliqué dans la Fédération des coopératives, dans COPFR. Moi, je porte un mandat chez Coopérative Europe, etc. Donc, on avait déjà ça, mais sans doute, on n'était pas assez ambitieux sur notre communication là-dessus. Peut-être on n'osait pas trop dire ce qu'on pensait, peut-être on ne se sentait pas tellement légitime, et puis chemin faisant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui nous interrogent, comme disait Pauline, sur « mais comment vous avez fait, pourquoi, quoi, etc. » Donc on se dit « bah pourquoi pas, après tout, dès lors qu'on l'a fait, d'abord en tirer un avantage en termes d'inbound et de candidature naturelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, bien sûr, et aussi considérer qu'une partie de notre impact est notre capacité d'entraînement. » Donc c'est aussi parce qu'on est capable de diffuser le modèle et d'attirer et d'inspirer éventuellement d'autres entreprises de toute taille, qu'elles soient petites, intermédiaires ou grandes, ou en tout cas de les interroger sur qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement, est-ce que ça s'applique pour nous, est-ce qu'on pourrait pas, etc., aller plus vite ou mieux vers des sujets de type mission, de type impact, de type RSE. Ça fait partie de notre capacité à construire un monde meilleur demain. Et donc on a intégré, d'ailleurs c'est une des évolutions sans doute qu'on aura dans la formalisation de notre mission, ou en tout cas dans la formalisation des objectifs statutaires, l'idée de l'advocacy. Et de l'intégrer comme partie prenante de ma fiche de job à moi, de ma fiche de mission à moi, qui est cet effet porte-voix, pour qu'on appelle ça croissance qualitative, capitaliste responsable, moi je me...
Peu importe le terme.
Ouais, peu importe le terme, l'idée c'est que l'entreprise a une place dans la vie de la cité, que cette place, en termes de momentum, on est au bon moment, parce que les entreprises ont les moyens, ont l'opportunité, ont l'intérêt stratégique de le faire, que les entreprises ont la responsabilité morale, sans doute, de se préoccuper de ce qui se passe à la génération future, en particulier les ETI, en particulier les ETI familiales, puisqu'il y a cette notion de transmission du capital qui fait que si elles ne se préoccupent pas de ce que va être la planète dans 30 ans, je ne vois pas bien ce qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants derrière. Et enfin, que compte tenu des difficultés des autres sphères d'influence, la religion, la politique, parfois même la famille, au global, il reste les assos et les entreprises, quoi, pour structurer la société. Et que donc, si les entreprises ne s'emparent pas du sujet, probablement personne ne va le faire. Ou en tout cas, que les entreprises sont un élément important du financement de la transition et de la capacité de mobiliser le temps et les énergies nécessaires à le faire. Et donc, nous, chez SOCAPS, on pense qu'une partie de notre job, en tout cas sur le territoire de la Normandie dans lequel on est implanté, c'est d'essayer de porter ce message-là. C'est possible, c'est pas si compliqué que ça. Faut pas des millions d'euros, c'est pas vrai. On a commencé avec Pauline à 0,2 ETP un jour par semaine sur le sujet. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était, un, extrêmement positif pour notre karma, deux, pas mauvais non plus pour nos affaires, et que par conséquent, on avait intérêt à investir sur cette transition. Et que c'était pour nous devenu un avantage stratégique compétitif que d'avoir fait une partie du chemin vers une entreprise plus responsable, plus durable.
Maintenant que vous avez un an de recul, comment est-ce que vous regardez le travail que vous avez effectué sur la structuration de la mission ? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous auriez faites différemment ?
Alors, on aurait sûrement pu prendre un peu plus notre temps pour le changement l'intégration dans les statuts de People Profit Planet, pas parce qu'aujourd'hui on change d'avis, mais parce qu'on se rend compte au bout d'un an qu'il y a des nouvelles réflexions qui arrivent, et peut-être un petit changement de formulation parce qu'on intègre des nouveaux sous-objectifs dans les grands objectifs, et qu'au final, si on avait un peu attendu, ça nous aurait pas empêché de déployer la stratégie qu'on a, les piliers, les actions, etc. Mais peut-être qu'on aurait pris un peu plus de recul entre le moment de l'écriture et les idées qu'on voulait déployer et l'implémentation opérationnelle.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense qu'on l'a fait parce que moi, je veux tout le temps aller vite, surtout.
Alors, j'osais pas le dire, mais avec Thomas, il faut que ça aille vite. Donc, quand Thomas s'est dit... on va passer société à mission, c'était dans les 6 mois qu'il fallait passer société à mission.
Bon, finalement, on a mis un an, mais effectivement, si on avait mis 2 ans, c'était pas forcément plus mal. Sauf qu'on n'aurait jamais été, comme on l'est aujourd'hui, la première entreprise à mission de Normandie.
Exactement.
Et certes, on est rejoint par d'autres, et c'est carrément cool que la communauté
pas beaucoup,
s'élargisse.
Hein.
Ouais, on est un peu à la bourre, c'est vrai. Mais c'est pas faute d'essayer, hein. C'est pas faute de bosser pour ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes... collègues et de mes confrères entrepreneurs en Normandie qui se posent activement la question, y compris les réseaux d'entreprises comme NOE dont on fait partie, qui est un réseau qui fédère 120 entrepreneurs normands, qui lui-même est en chemin pour devenir société à mission. Donc il y a des choses qui bougent. Effectivement, on aurait peut-être pu prendre un peu plus de temps pour mieux penser les choses. On aurait peut-être pu se payer un peu plus le luxe d'être accompagné là-dessus, parce qu'on l'a fait beaucoup avec nos petites mains. On avait un cabinet consultant partenaire qui organisait les ateliers de réflexion et de co-rédaction des objectifs et de la raison d'être. Peut-être qu'on aurait pu, avec le recul, se faire plus accompagner là-dessus. On était aussi en période Covid, c'était compliqué, on était tous en distanciel, donc on s'est débrouillé comme on pensait qu'il fallait le faire. Avec le recul, mon conseil à d'autres qui le font, c'est de ne pas hésiter de mettre un budget pour se faire accompagner, pour avoir un regard extérieur qui a une vision un peu plus d'ensemble et plus stratégique sur le sujet. Mais bon, globalement, sinon, si c'était à refaire, je pense qu'on le referait à peu près pareil.
Oui, oui, parce que cela dit, d'avoir fait tout ça assez vite nous a, je pense, aussi poussé à mettre en place beaucoup de choses très vite. Et puis, en fait, c'est de l'amélioration continue. Donc, quand on s'est posé des questions dernièrement avec le comité de mission, le COMEX, sur tel objectif, tel autre, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu modifier ? C'est pas très grave. Tant qu'on ne change pas radicalement de boussole, finalement, c'est naturel à l'entreprise. Et je suis sûr que dans 5 ans, on aura d'autres réflexions. C'est naturel.
Et puis pour le coup, vous êtes loin d'être les seuls à vous interroger sur la formulation des objectifs, se dire peut-être qu'on peut reformuler un petit peu une fois que la mission vit à l'intérieur de l'entreprise. Alors quels sont aujourd'hui les prochains enjeux liés à la mission ? Alors je sais, on était juste avant qu'on enregistre, on parlait du rapport de mission, puisque vous êtes arrivé à ce moment-là.
Ça y est, c'est fait. Ça y est, il est bouclé. On a écrit le premier rapport de comité de mission qui va être publié le 24 juin pour l'anniversaire des 1 an du passage en société à mission de SOCAPS. C'est du gros travail, c'est beaucoup de temps, faut pas le sous-estimer, je crois, ce temps-là, parce que c'est 1 an de travail à condenser, que ce soit lisible pour tout le monde, que ce soit clair, cohérent, sans être un rapport détaillé de toutes les actions qu'on met en place. Donc il y a un gros travail d'équipe sur ce sujet-là. Mais on est fiers de ce qu'on va montrer. Je crois qu'on peut être content.
Et là aussi, enfin, notre philosophie, c'est plutôt de faire nous-mêmes, quoi. Donc on le fait à la mano. Oui. C'est pas notre agence de com qui s'en occupe. Les photos qui sont dedans, c'est des vraies photos qu'a pris un de nos responsables commerciaux pendant des séminaires. Enfin, on essaye de faire en sorte que ce soit des vraies choses qu'on a fait nous-mêmes avec nos petites mains. Ok, c'est sans doute moins beau et moins léché que si c'était notre agence qui s'en était occupée, parce qu'il serait sans doute plus fort que nous en communication, mais au moins c'est nous qui l'avons fait, et on est assez fiers du fait de le garder en interne. Pour le coup, ce document-là, c'est un document qui est produit par nos équipes internes, avec nos petites mains, nos photos de vrais gens qui existent vraiment, et ça pour nous c'est important aussi.
Ça me paraît être un bon mot de la fin. Je vous propose qu'on passe à l'instant musical. Donc là, Pauline, c'est plus toi, visiblement, qui a été désigné
DJ Pauline. Comme mes amis proches.
Voilà.
Alors que je...
Donc je rappelle, hein, l'idée, c'est pour chaque fin de podcast, chaque fin d'épisode, le coup de cœur musical de l'invité. Donc là, c'est toi, Pauline, qui va te charger de ça.
C'est moi.
Donc un morceau qui te plaît pour une raison que tu vas nous expliquer.
Alors, j'ai choisi le morceau Half Age de Weval, qui n'y a pas de paroles, parce que j'ai un peu cherché quand même. Il y a des morceaux que j'aime bien, mais les paroles, je me suis rendu compte que bon, c'était pas très adapté. Et ce morceau-là, je l'aime beaucoup personnellement, parce que c'est le type de morceau qu'on peut ou écouter en rêvassant dans sa voiture, ou écouter, moi des fois quand je travaille à la maison, j'aime bien mettre de la musique parfois quand je réfléchis et que j'ai besoin un peu d'aérer mon esprit. Et le hasard fait que j'en suis souvenue en réfléchissant au morceau hier. Je l'ai découvert pendant le séminaire l'année dernière d'été, où on parlait beaucoup de sociétés à mission, etc. Et du coup ça m'a rappelé l'année dernière où on en était, le musique symboliquement. C'était sympa d'avoir un morceau que j'ai découvert il y a un an. Voilà.
Parfait, je trouve une bonne manière effectivement de combiner différents environnements et puis de dire bon ben voilà, un an plus tard je me suis souvenu de ce morceau qui m'avait animé à ce moment-là. Un grand merci à vous deux.
Merci à toi.
J'étais
beaucoup
sûr qu'on n'allait pas tenir en une demi-heure. On n'a pas tenu en une demi-heure.
Damned.
En tout cas, un grand merci pour toutes ces explications et tous les détails. Je trouve que vraiment, pour le coup, c'était déjà le cas l'an dernier et je le redis encore cette année. Je suis assez impressionné par tout ce que vous faites et la manière dont vous arrivez à animer le côté de société à mission et ce que vous faites de cette qualité qui finalement reste encore assez mal connue et assez diffuse, mais que vous arrivez à bien faire rentrer dans votre entreprise, et c'est un bon cas d'école, je trouve. Donc merci beaucoup.
Merci à toi. Bien.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander, c'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast et sur Spotify. Alors bizarrement, sur Spotify, ça ne fonctionne que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement du podcast et faire que d'autres puissent le découvrir plus facilement. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, voire de vous faire accompagner dans cette démarche, vous pouvez me contacter via mon site lamachinassence.fr ou sur LinkedIn. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.